Donc c'est chapitre Kavzaïn au Passouk Tet Vav 27-15. Et d'abord, Moshe El Hachem, c'est Moshe qui parle à Hachem, oui? C'est pas avec d'abord Hachem et le Moshe, c'est Moshe qui parle à Hachem. Et il lui demande, presque. Peut-être il lui parle, il lui donne presque un ordre, comme toujours. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Yifkod Hashem, Elokei Haruchot, L'chol Basar, Ish Alaida. Il lui dit, qu'Hashem, le Dieu des esprits pour toute chair, pour le bassard, qu'il désigne Ish, un homme, Al-Haïda, un homme qui soit au-dessus, qui guide l'assemblée des Bnei Israël. Littéralement, un homme sur l'assemblée, c'est-à-dire quelqu'un qui va les guider. Qu'est-ce qu'il doit faire, cet homme? Asher yetzel ifnehem va asher yavol ifnehem. Littéralement, quelqu'un qui sorte devant eux et qui rentre devant eux. Va asher yotziem va asher yeviem. Et qui les fera sortir et qui les fera entrer. Velo tiyeh adat Hashem katzon asher elahem roeh. Afin que l'assemblée d'Hachem ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Voilà. Mon cher Rabbeinu a un souci. Dans la dernière paracha, Hachem lui a dit qu'il n'entrerait pas en Eretz Israël, donc il va bientôt mourir. Et il demande à Hachem. Bonsoir Paul. Il demande à Hachem de désigner quelqu'un qui va diriger le clan d'Israël à sa place. Alors c'est déjà étonnant parce que évidemment que les Bnei Israël, le cas échéant, ils vont se donner un chef et qu'éventuellement c'est Hachem qui va leur dire qui sera le chef. Pourquoi est-ce que c'est le souci de Moshe? Moshe Rabbeinu a un souci. Et il demande, et il dit à Hachem, désigne quelqu'un. La chose, première chose qui frappe, à part, je rentre pas dans, pour l'instant, dans le texte lui-même. Mais, mon cher Abinul a un souci de désigner un chef. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans la tête de Moshe, depuis très longtemps, un chef qui va s'imposer, c'est-à-dire Yoshua. Dans la guerre contre Amalek, Yoshua a été nommé, comment on dirait aujourd'hui, chef d'état-major. C'est lui qui a fait la guerre. Donc ça veut dire quasiment déjà, on est au tout début de la trajectoire des Bnei Israël. Et maintenant, 40 ans après, quasiment, enfin bon, entre 35 et 40 ans, après, il ne dit pas Yoshua. Il ne demande pas à Hachem de désigner, même si il veut une désignation publique, il dit pas, il propose pas Yoshua. Pas du tout. Et la question qui se pose, c'est, ben, il est ton successeur, c'est marqué dans Pirkei Avot que Moshe Kibel Torah Sinaï Umsara à Yoshua. Il a transmis la Torah à Yoshua. Ça veut dire que c'est clairement Yoshua qui est le successeur de Moshe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que Moshe demande quelqu'un? Ish alaïda eba. Alors, il y a une chose encore un peu plus difficile. Là, c'est le texte. Mais quand vous regardez dans Rashi, alors regardez, Rachi. Rachi dit, Kevan chez Shama Moshe, chez Amarlo Hamakom. Quand Moshe a entendu qu'Hachem lui a dit, Ten nachlat sofrod libnotav, quand Hachem lui a dit, donne l'héritage de Tzlofrod à ses filles, c'est ce qu'il a dit la semaine dernière, et non, qu'il va dire, pardon, qu'il va dire juste avant, bon, je ne l'ai pas lu, mais c'est pas un scoop, c'est juste avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filles de Tzlofrod ont demandé à Hachem. Elles ont réclamé, quelque part. Ils ont dit, Lamaïgara, pourquoi est-ce que notre père, il serait défavorisé, etc., par rapport à ses frères, etc. Il n'était pas dans le complot de Korach. Il a été condamné à mort pour la faute qu'il a faite par rapport au Shabbat. OK, même si, d'accord, il a fait une faute, mais ça ne doit pas du tout influencer le problème de l'héritage. Or, si les filles n'héritent pas, bon, il y a un problème. Lui, il n'aura plus d'héritier. Il n'y a pas eu d'héritier pour. Donc, il n'a pas de terre patrimoniale des descendants de Tzlofrod. Alors, lisez la suite, parce que. Alors, quand il a vu que c'était comme ça, alors il lui a dit, il s'est dit, pardon, Amar, Giyasha'a, She'etva, Sorki. Le moment est arrivé pour que moi, je demande ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, voilà, elles ont demandé, je vois que Hachem a accepté, agréé leur demande. Bon, ça veut dire que c'est un moment où il faut demander. Ok, alors moi je vais demander ce que je veux. Qu'est-ce qu'il veut, Moshe? Sheyirshu banaï Gdoulati. Il demande que ce soit ses enfants qui héritent son statut, sa grandeur. Bon.
Ces enfants, c'est pas un peu l'amour. Est-ce qu'il est vraiment justifié ces enfants? Ça ne reste pas. Pourquoi tu ne fait manger pas?
Voilà, on va venir jusqu'au bout. Amar lo Akadosh Baruch Hu, lo kach alta b'machshava lefanai. Donc il a demandé. Et Hachem lui a dit, bon, moi j'ai pas pensé comme ça. Kedai hu Yoshua litol sachar shimusho shelomash mitoch haohel. Yoshua, il mérite d'avoir comme salaire pour le service, pour le fait qu'il a travaillé avec toi en permanence. Alors, et maintenant on va. Et ce qu'Hachem dit ici, ça correspond à un principe énoncé par Shlomo HaMelech dans Michelet, c'est-à-dire dans Michelet. Shlomo HaMelech, il a énoncé toutes sortes de principes fondamentaux, quoi. Les meshalim, les paraboles qui sont dites dans Michelet, c'est des principes de sagesse. Donc, on trouve ça dans la sagesse, parce que Shlomo a dit dans Michelet, notre sartena, yochal piria. Bon, celui qui s'occupe, qui plante, qui s'occupe du figuier, ben, c'est lui qui mangera les figues. Donc, Yoshua, il s'est occupé de la Torah, il s'est occupé de travailler avec toi, sous ta direction. C'est lui qui. Alors, d'où est-ce que Rashi a pris ça? En Tanhuma, Midrash Tanhuma. Alors, ça, c'est pour ça que je vous ai dit. J'ai un double étonnement, en quelque sorte. Premier étonnement, le texte lui-même, il dit que Moshe ne pense pas à Yoshua. Il ne pense plus à Yoshua. Pourquoi? Il y a pensé, disons, les premières années des tribulations des Bnei Israël. Maintenant, 40 ans, la 40e année, il pense plus à lui. Ça veut dire que quelque chose a changé dans le regard que mon cher Abbé nous porte sur Yoshua. Mais j'ai déjà ouvert, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, deuxièmement, j'ai un deuxième étonnement, c'est ce Tanhuma. Moi, Pitom, les enfants de Moshe, on n'en parle jamais. À part de dire qu'ils sont nés, rien du tout. Absolument rien. Il a?
La vie que c'était pas assisté à la Torah.
Oui, alors ça, c'est éventuellement, suivant quand Yitro est arrivé. Alors, ils n'étaient pas à Matan Torah, bon, mais ils ont appris la Torah après, je veux dire. Ok, ils se sont convertis tout seuls. Il y a la conversion générale de tout le monde. Et si Yitro, avec sa fille, la femme de Moshe et les enfants, sont arrivés après Matan Torah, ça veut dire que ils sont les premiers convertis, puisque les autres se sont convertis tout le monde, tout le clan d'Israël s'est converti au Sinaï, mais tout le monde ensemble. Et eux, ils sont les seuls à s'être convertis après. Bon, alors même si on ne tient pas comme cette chita, dire qu'il est venu avant, etc. Mais en quoi est-ce que... Alors ça a l'air un peu très étrange, parce que si Moshe dit Tsorki, c'est-à-dire je demande quelque chose dont j'ai besoin, quoi, quelque part, comme elles ont demandé ce qu'elles voulaient, elles voulaient l'héritage, pas pour elles-mêmes, ou en tout cas c'est ce qu'elles ont dit. Pour la mémoire de leur père. Donc moi, voilà, j'ai eu le privilège d'être choisi. Quelque part, je suis roi et la halakha, elle va être par la suite que le fils du roi, sauf si il est absolument incompétent ou il n'est pas accepté par Hachem, normalement le fils du roi, il hérite du trône. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Est-ce que Moshe Rabbeinu pense? Non. Si c'était pas Moshe Rabbeinu, on aurait dit, ah, c'est du népotisme. Il planque sa famille, quoi. Mais bon, on peut pas dire ça sur Moshe Rabbeinu. Déjà, Korach a essayé de dire ça. Hein?
C'est un besoin de ça.
Sorki, c'est, ouais. Quelque part, bon. Alors, bon, la vérité, je ne sais rien dire pour l'instant sur. Ce sera pas cette année, quoi. Oh, je ne sais pas, peut-être. Pas dans le chiot. Sur Rachid, je ne sais pas. Bon, j'ai du mal à entendre. Peut-être quelqu'un doit l'expliquer. La vérité, je dis dire la vérité, je ne suis pas allé regarder dans Tanhuma qu'est-ce qui est dit autour. Je n'ai pas eu le temps de faire. Mais bon, le problème, c'est Yoshua. Le problème de la Torah, le problème du texte, c'est Yoshua. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que Moshe veut? Moshe, il décrit le cahier des charges de son successeur. Asher Yetzel ifneem, Asher Yavol ifneem, Asher Yaviem, Asher Yotsiem. C'est quoi ça? Ça veut dire, littéralement, ça veut dire quelqu'un qui va marcher devant eux et qui va être derrière eux, mais les pousser. Il y a deux façons de faire avancer les gens, c'est où on les tire, on les pousse. Et deuxièmement, qui va les faire entrer, et les faire sortir, ou les faire sortir entrer et sortir en Eretz Israël, enfin bref. Donc il faut qu'il ait une capacité d'entraînement. Il faut qu'il comprenne bien le peuple. Et alors les deux premières, c'est il faut qu'il soit un exemple. Il faut qu'il montre. Lui, il est devant, il est derrière. C'est lui qui avance, quoi. Il avance et il tire tout le monde derrière lui. Et puis, d'un autre côté, il connaît suffisamment le peuple. Il peut les motiver pour qu'ils entrent et qu'ils sortent, entrer en Eretz Israël. Donc, il y a deux choses à faire. Il doit être un modèle et il doit être quelqu'un qui comprend bien le peuple. Et qui va pouvoir motiver le peuple pour faire les choses. Alors, il y a trois choses sur Yoshua. Quand Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre d'Hachem de descendre du Sinaï parce que Kishichet Amcha, à cause du veau d'or, Moshe Rabbeinu descend de la montagne et Yoshua, qui était en bas, il monte à la rencontre de Moshe, là où il a le droit, jusque-là, il a le droit d'aller, et ils descendent ensemble. Et ils entendent le bruit du peuple. Et Yoshua dit, ah, j'entends, il y a la guerre dans le camp. Et Moshé lui dit, pas du tout, il n'y a pas de guerre. Y a pas, on n'entend pas des bruits des cris de joie des vainqueurs, ni les pleurs des vaincus. C'est autre chose. Ça veut dire que Yoshua, il n'a pas la capacité de comprendre le peuple. Visiblement, il dit une bêtise devant Moshe Rabbeinu. Ensuite, dans les explorateurs, Moshe Rabbeinu, il change le nom de Yoshua. Il lui met un yud pour qu'il y ait dans le nom de Hoshéa qui était le sien, maintenant ça devient Yoshua, pour qu'il y ait le nom divin dedans, qu'il soit protégé, pour qu'il réussisse à ne pas être entraîné dans le complot des explorateurs. Ça veut dire que mon cher ami nous comprend que Yoshua, il peut pas se débrouiller tout seul. Il a besoin que Hachem, on mette le nom d'Hachem dedans, ça veut dire il faut un traitement particulier. Quand les explorateurs reviennent, qui est-ce qui contredit les explorateurs? Caleb. Il y a As Caleb, c'est Caleb qui parle. Yoshua n'entend pas. Après, dans la fin, c'est Caleb et Yoshua, ils se joignent à eux. On va voir à la fin que la Torah cite Caleb avant Yoshua. Hachem, il n'a pas, Moshe Rabbeinu n'a pas jugé nécessaire de fortifier Caleb pour qu'il ne tombe pas dans le piège. Il a pensé, il va se débrouiller. Yoshua, si on ne l'aide pas, il ne va pas tenir le coup. Et donc, on voit que Yoshua n'a pas les qualités qu'il faut pour diriger le peuple. Et donc pour Moshe Rabbeinu, Yoshua, c'est pas le bon choix. Il y a encore une difficulté dans le texte. C'est Hachem dit que Moshe Rabbeinu nous dit par exemple Yifkod Hachem, donc il s'adresse à Hachem au tétragramme, et il l'appelle Eloke Haruchot le Chol Basar. Qu'est-ce que ça veut dire? Eloke Haruchot, le Dieu des esprits. Le Chol Bassar pour toute chair. On entend ici eh bien cette notion de il y a l'esprit et le corps, quoi, la chair et le c'est le corps. Normalement, pour savoir ce que ça veut dire, il faut regarder la première fois que cette expression a été utilisée. Alors, elle a été utilisée. La seule fois, d'ailleurs, était utilisée par Korach, dans la parasha de Korach. Si vous regardez dans le passouk, le passouk 22 du chapitre Tetzain, du chapitre 16, 16-22. Marqué dans le passouk, juste avant, c'est écrit, Vaïdaber Hachem el Moshe, mais Aaron est mort. Ibadlou mitoch haeda azot, séparez-vous de cette assemblée. Va'achale otam keraga. Et je vais les détruire immédiatement. Va'yiplou al pnehem, va'yomru. Donc, Moshe et Aaron se sont tombés sur leur face, littéralement, et ils ont dit, Quel Eloke Aruchot le Chol Basar? Aish Echad Yicheta Valkol Aeda. Est-ce qu'un homme va fauter et tu vas te mettre en colère contre tout le peuple? Hachem a dit, je vais détruire toute l'Aeda. Aaron dit, attends, il y a Korach. Là, il s'adresse à lui, Eloke Aruchot, le Chol Basar. Et là-bas, Rashi dit, Yodea Marshavot, tu connais les pensées, En Bidatra Kimidat Basar Vadam. Toi, tu fonctionnes pas comme un roi de chair et de sang, Meler Basar Vadam, chez Sacha Alav, Miktsat Medina, un roi de chair et de sang, s'il y a une révolte d'une partie de son peuple, Eno Yodea mi a fauté, il ne sait pas qui a fauté, le Fichar, que chez Okoes, Nifra Mikulam. Donc, quand il se met en colère, ben, il va tuer tout le monde. Bachar el-Assad. Aval atal lefanecha gluyot kol ha-machshavot. Mais toi, tu connais toutes les pensées de chacun de chacune des personnes. Yodea ata mi choté. Toi, tu sais qui. Et donc, ici, Eloke Aruchot, le Chol Basar, ça veut dire toi qui connais toutes les pensées et tu sais exactement qui a fauté. Concrètement, tu connais les marshavot et tu peux savoir qui a eu cette marshava. Donc ici, Eloke Aruchot, le Chol Basar, c'est-à-dire, il faut quelqu'un qui est un roi, quelqu'un qui est de l'esprit, quelqu'un qui a une hauteur d'esprit, et aussi le Chol Basar, quelqu'un qui ait les pieds sur terre, qui puisse diriger le peuple, qui comprenne le peuple et qui puisse le diriger. C'est sur cette deuxième partie que Yoshua n'est pas à la hauteur. Ruchot, Yoshua, il est parfait dans l'étude, dans La transmission du spirituel, parfait. Il est ton élève, Moshe Kibbel Torah Misinaï, sera lui au choix. Mais il ne peut pas diriger le peuple. Ça, c'est ce que Moshe pense. C'est pour ça que il n'envisage pas que ce soit Yoshua son successeur. Alors qu'est-ce qui se passe? Hachem lui dit, Vayomer Hachem El Moshe, je reprends le texte, Kach lecha et Yoshua ben Nun, Ish asher ruach bo, prends Yoshua ben Nun, qui lui a l'esprit. L'esprit, là, Yoshua. Ah, mais ça suffit pas. Est-ce que Moshe Rabbeinu il dit, Asher Yavol Ifneem, Yetzel Ifneem, Yaviem, etc. Et comment il va faire? Et lui, il ne peut pas le faire. Alors, Vesamachta et Yadcha Alav. Ça veut dire que tu vas mettre, littéralement, tu vas mettre ta main sur lui. La smicha, c'est quelque part. Tu vas l'investir de. Normalement, quand on fait la smicha sur un corban, par exemple, je veux que l'animal. Vous savez ce que c'est la smicha? Quand on apporte un corban, il fallait s'appuyer de toutes ses forces sur la tête de l'animal. C'était une façon de dire à l'animal, enfin, de dire que l'animal va me représenter. Et donc, la smicha, ça veut dire que. Quelque part, je suis une espèce de prolongation. Et si vous voulez, c'est ça l'image de Chazal. Quand Chazal dit que Moshe Rabbeinu, c'est comme le soleil et Yoshua comme la lune. N'est-ce pas? La lune, elle n'a pas de lumière propre. Mais la lune, elle va refléter la lumière que le soleil lui envoie. Et donc, l'idée, ce que dit cette histoire que Moshe soleil et Yoshua lune, ça veut dire, Samarta, ça veut dire qu'il ira de toi en lui. Tu vas l'investir, il va être ton successeur, mais pas que, il va pas être indépendant de toi, quoi. Quelque part, tu vas lui donner de l'énergie. Rachi, regardez Rachi. Le Samartin tiendra ten lo meturgeman chez Yidrosh Bechayecha. Chez lo yomru alav. Loyalo le Harim Roche, Bimé Moshe. C'est-à-dire, il faut que tu le fasses déjà parler de ton vivant pour que tout le monde voit bien que toi, tu le considères comme la prolongation de toi-même, quelque part. C'est un peu ce qu'on pense quand on dit que le fils du roi devient roi. Il devient roi, pourquoi? Parce que il est le fils, il est la prolongation. Si vous voulez, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la définition, puisqu'on parle de ces questions d'héritage, avec les filles de Tzlofrod et mon cher Abelou. C'est quand il y a héritage, est-ce que l'héritage, c'est quoi? C'est le fils, il est là et il a un droit de ce que son père a laissé. Et donc le problème d'héritage, c'est vu du côté du fils. Le fils a un droit. Ou alors il faut le regarder du côté du père. D'accord? Quelque part, l'héritage, c'est une prolongation du père Et le fils va, il va se mettre dans les chaussures de son père et il va continuer le travail que son père a fait. Il va peut-être l'amplifier après, mais il va être un continuateur. Donc c'est vu du côté de Yerusha, c'est quelque chose qui c'est important que le père, il ait une Yerusha. C'est pour ça, c'est aussi important qu'il y ait une descendance. Une descendance parce que il peut y avoir une prolongation. Prolongation de la génération précédente. Et alors, on n'a toujours pas résolu le problème. Oui. Qui va diriger? Yoshua, il ne peut pas diriger. Alors Hachem dit, Vehamata Oto, tu le mettras à se tenir Lifnei et Lazar Cohen, devant le Cohen Gadol. Et Lazar est le Cohen Gadol, puisque on est après la mort de son père, Aaron. Et donc, il va se tenir devant et Lazar Cohen. Quelque part, il a besoin de la reconnaissance par Lazar Cohen. Velifne Kolaeda, aussi devant tout le monde, reconnu par tout le monde. Vetsivita oto le'eneihem. Et tu vas lui donner des tsivuyim, tu vas lui donner des instructions devant tout le monde, que tout le monde voit bien qu'il est la prolongation. Il agit sur ton ordre. Il est la prolongation. Et tout ça, c'est finalement. Venatata mehodcha alav, et tu vas mettre de ton hod, tu vas lui donner de ton hod, c'est-à-dire tu vas lui donner de ton rayonnement. Rachid dit, mikiron orpanim, lui, c'est comme la lune, quoi. Il va refléter. Comme toi, tu reflètes la Torah, lui, il va refléter le reflet de la Torah qu'il a reçu de toi. Mehodcha, une partie de toi, pas tout. C'est là que Rashi ramène le Pnei Moshe qui est Chama et Pnei Yoshua Kalvana. Et ça, tout ça, c'est nécessaire. Le Ma'an, afin que Yishmeu kol adat bnei Israël, que toute l'assemblée des bnei Israël entende tout ça. Ils aient bien vu que, voilà, il va travailler avec Elazar sous une certaine manière, sous une forme de direction ou de co-direction avec Elazar Cohen. Et on va voir par la suite que c'est Elazar Cohen qui va diriger, quoi, quelque part. Lui va inspirer, il va. Alors, le texte répète, enfin Hachem répète, Velifne Elazar Cohen Yaamod, et lui, il va se tenir devant Elazar Cohen, Veshaal lo bemishpat haourim, Lifne Hachem. Et il va interroger Elazar Cohen, parce qu'il va interroger Hachem, mais lui, il ne peut pas. Comme Moshe Rabbeinu, il parlait directement avec Hachem. Yoshua, c'est fini, il ne peut pas parler directement avec Hachem. Et maintenant, quand on veut interroger Hachem, il faut passer par les Urim et Thummim. Il faut passer par le fameux, les lumières, la question pectorale. Mais qui est-ce qui peut, lui, il ne peut pas interroger, il n'a pas accès. C'est sur le Kohen Gadol. Tu vas interroger le Kohen Gadol. C'est le Kohen Gadol qui va lire et interpréter les lumières, quoi, tous les transistors qui vont, toutes je sais pas, les LED qu'il y a, qui vont s'allumer. Alors, avec le risque de se tromper, comme Elia Cohen s'est trompé avec Hannah, avec la mère de Shmuel. Mais bon, lui devra en passer par lui, par Elazar Cohen. Et du coup, Alpiv Yetsuv et Alpiv Yavohu. Ou Vechol Bnei Israël Ito. Et donc, c'est sur sa bouche qu'ils vont sortir et aussi entrer, ce que Moshe avait dit. Lui est donc, et tout Israël avec lui, Vechol Haéda et toute la. Enfin, tous les Bnei Israël et toute la Héda, comme si il y avait, il y a les Bnei Israël et la Héda. C'est pas non plus très clair pour savoir c'est quoi Héda. Une fois que tu as dit tous les Bnei Israël, tu as dit tout le monde, non? Qui y a dans la Héda? Oui, mais c'est quoi? C'est les Bnei Israël, tout Israël, non? On a déjà dit tout Israël. C'est pas les femmes? Les femmes ne vont pas rester en arrière, non? Oui, il dit Sanhedrin. Effectivement, Moshe va faire tout ce qu'Hachem lui a ordonné. Vayas Moshe, Kacher Tziva Hachem Oto. Vayikar et Yoshua, il a pris Yoshua, il l'a mis devant Elazar Cohen et devant toute la Héda. Vayismoch et Yadav. Hachem lui avait dit, tu appuieras avec une main, et lui, il a été plus généreux, puis de deux mains. Vayitzaveu kasher, et il lui a donné des instructions, kasher diver Hashem be'yad Moshe. Donc Hachem a répondu à Moshe. Toi, tu pensais que, bon, tu pensais un qui sera capable de tout faire. Visiblement, c'est pas possible. Ça marche pas. Et donc, ça marchait quand c'était toi. Mais il y a déjà eu quelque chose au temps de Moshe Rabbeinu, qui est que, comme vous souvenez, que en réalité, Moshe Rabbeinu aurait dû être Kohen Gadol aussi. Il a perdu la Kehuna Gdola parce qu'il n'a pas accepté tout de suite d'aller sortir les Bnei Israël quand Hachem le lui a demandé au buisson ardent. Il lui a demandé, Moshe, pendant une semaine, il a dit non. Donc il a perdu la Kehuna Gdola. Alors, c'est curieux parce que ça veut dire que, de façon idéale, tout devait être concentré dans une seule personne. La Malchoute et la Kehuna Gdola. Parce que Yaakov a dit à Reuven, tu aurais dû être à la fois Kohen Gadol et Melech. Pardon? Oui, et la double part. Alors, je ne sais pas ce qu'aurait été à ce moment-là la double part, parce que finalement, la double part, elle a été. Le seul qui a vraiment eu la double part, c'est Yosef. Parce qu'il a deux tribus qui sont ses enfants, qui ont été élevés au rang de tribus. C'est-à-dire, on a remplacé Yosef par Ephraïm et Ménaché. L'idée qu'il y a une direction bicéphale, finalement, ça se passe ici, quoi, Lazare, Yoshua et Lazare. Ça veut dire que dans l'idéal, c'était Moshe qui jouait tous les rôles. Alors, il ne joue pas le rôle du Kohen Gadol, mais il est tellement mêlère que Aaron, il joue pas. Dans la direction, il joue pas vraiment de rôle. Alors, Aaron, il est vraiment. Il est le porte-parole de Moshe. Comme Hachem a dit par rapport à Paro, Aaron yé nevi'echa. Aaron, ça sera ton prophète. Il va parler en ton nom. Et cette idée de direction bicéphale, d'abord on voit que c'est ce que Rabbi Akiva avait voulu faire avec Bar Kokhba. Il voulait que Bar Kokhba soit le roi, le Mashiach, et seulement il allait lui demander à lui quoi faire. Il allait se faire diriger par le rouar de Rabbi Akiva, et donc une direction bicéphale. Il y en a qu'un seul qui aura la couronne. Rabbi Akiva, il n'en a rien à faire probablement de la couronne, mais il veut faire réussir, faire en sorte que Bar Kokhba fasse les choses telles qu'elles doivent être faites. Au début, ça marche, mais après, Bar Kokhba, il attrape la grosse tête et ça marche plus. Il veut faire tout seul et ça marche plus. Et d'une certaine manière, cette direction bicéphale, c'était déjà le projet de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il pensait que les jumeaux allaient ensemble diriger le clan Israël. C'est-à-dire que Yaakov serait dans les Ohalim, donc il va aller réfléchir, donnera tout le rouar, quoi. Et Esav, ce sera l'homme de terrain. À condition que Esav comprenne que son rôle, c'est d'être le fournisseur de tout le côté matériel pour que Yaakov puisse donner, se consacrer entièrement et diriger spirituellement. Ça, c'est ce que Yitzhak Avinu pensait. Et c'est pour ça qu'il donne les brachot, qui sont des brachot, Viten Lecha là-bas, c'est des brachot complètement matériels. Il les donne à Esav, puisque c'est lui qui va s'occuper du matériel. Mais Rivka, elle sait par nevoie, et elle sait que Essav, il va pas jouer le rôle, il va pas jouer le jeu. Et donc, si on lui donne à lui le matériel, il va pas le donner à, il va pas faire profiter. Alors ça, c'est un désastre. Le Gaon de Vilna dit que si les brachot étaient arrivés chez Essav, pas l'Israël n'aurait pas pu exister, quoi. On n'aurait pas eu à manger, mais là.
D'accord, il est le spirituel.
Il aurait pu faire les deux.
Oui, si, exact.
Il a bien dû le faire. Et il est obligé de jouer les deux rôles. Alors, est-ce que les deux rôles, c'est parce que, avec deux noms, avec Yaakov et Israël, et bon, il y a aussi Yeshurun. Ça, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne avec les noms. Mais bon, visiblement, il a dû tout faire, Yaakov, et quelque part, quand Yaakov qui est un, qui pour devenir deux, quoi, quelque part, c'est Yosef. Yosef, c'est Yaakov double, quand il se dédouble, quoi. Donc à partir de ça, on a une double direction. On a un côté le Kohanim et de l'autre côté le Chachamim. Mais ça va pas marcher non plus parce que les Kohanim, ils vont devenir un peuple pour soi, quoi. Quelque part, ils se marient pas avec n'importe qui. Leurs filles, elles se marient pas avec une pouta. Il faut un dinar. Toutes sortes de, une espèce d'état dans l'état, quoi. Et tout de suite après, il y a cette longue paracha, enfin, cette longue, long texte sur les moussafim, sur les korbanot de moussaf. Alors, on pourrait penser, il y a des gens qui pensent comme ça, que voilà. Pinchas, ici, c'est une paracha, la dernière partie en tout cas, c'est une paracha des Moadim, puisqu'il y a les Korbanot pour Rosh Chodesh et pour tous les Yamim Tovim. Mais ce n'est pas vraiment le cas. La paracha des Moadim, c'est paracha Temor. Et ici, c'est les Korbanot. Alors, c'est un peu compliqué. Je sais pas où j'arrive à le dire vraiment, mais si vous regardez le tout début du texte, Saved bnei Israël, ve'amarta alehem, et korbani lachmi leishai, re'ach nikrofi tishvu lakrivlim madu. C'est-à-dire, lachmi, c'est mon pain. C'est-à-dire, c'est la nourriture, kvayachol, la nourriture d'Hachem. Mais peut-être parce que la Torah, elle a eu peur que les gens s'imaginent que Hachem y mange. Alors, c'est assez, l'Ishaï, ça va être brûlé, c'est pas du tout que, d'accord, l'Ishaï, c'est les feux. C'est les korbanot qui vont, ce korban, c'est un holocauste. Il va être entièrement brûlé. Ça, c'est le korban tamid. C'est un korban qui est en deux parties, une partie pour le matin, une partie pour la fin de l'après-midi. Qu'est-ce qu'on apporte? Alors, vous allez m'apporter mon pain. Le pain, c'est quoi? Kvasim ben Shana, Tmimim, Shnaim, Layom, deux kvasim, Keves Echad, tu le feras le matin et l'autre tu le feras en fin d'après-midi, et il y aura Asirita Efa Solet comme mincha, il y aura une mincha, une offrande végétale. Une crêpe, quoi, si vous voulez. Loula, bechemen, katit, revitain. Loula, c'est-à-dire plonger, baloul, pétri avec de l'huile. Avec un revit de hin, de huile. On a tamid à suya be arsinaï, c'est le réach nichoach, qui la chef. Et puis, il y aura aussi nisko, revit, des libations du vin, un quart de hin, le matin, pour chaque kevès, pour chaque agneau. Voilà. Ça, c'est donc tous les jours, Shabbat, Yom Kippour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce double corban qui s'appelle Tamid parce qu'il est tous les jours. Et ça, c'est un corban, c'est le corban de base, une espèce de nourriture quotidienne, bi-quotidienne, disons, deux fois par jour. C'est deux fois par jour et c'est celui du matin, c'est avant la journée, et celui de fin d'après-midi, c'est avant la nuit. Et ce corban-là, quand on l'apporte, c'est pour Hachem. Un corban, c'est une espèce de dû que les Hachem dit. Voilà, c'est ce que vous devez, vous les Bnei Israël, vous me devez ça régulièrement, tous les jours. Pour nous, Bnei Israël, ça a une très grande importance parce que ce korban, il apporte, comme tous les korbanot qui se respectent, ou presque tous, il apporte une kapara. La capara, c'est celui du matin, il apporte une capara pour toutes les relativement petites fautes qui ont été commises dans la nuit. Ça veut dire que ce corban qu'on apporte le matin, il nous procure une journée page blanche. Bon, les fautes de la nuit ne n'empêchent pas de pouvoir d'avoir une journée complètement à disposition. Une journée dans laquelle il n'y a pas des empêchements, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça parce que vu que tu as fait telle et telle faute dans la nuit, donc ça t'empêche de. Non, ça nettoie tout. Bon, ça nettoie pas les grosses fautes, ça veut dire que si vous avez tué votre voisin dans la nuit, c'est pas complètement effacé, quoi. Mais bon, les fautes standards. Et de même, on a aussi toute une nuit avec une page blanche, puisque les fautes de la journée sont nettoyées en quelque sorte par le corban de Ben Arbaïm, le corban qu'on de Mincha. Et puis ensuite, on nous dit Shabbat. Alors Shabbat, qu'est-ce qu'on apporte comme corban? C'est-à-dire comme en plus du corban de tous les jours, il y a un moussaf, un supplément. Mais si vous voulez, c'est un supplément qu'on apporte le Shabbat, mais ce n'est pas un corban du Shabbat. De même que les corbanot, les moussafim de Yomim Tovim, ce n'est pas des corbanot pour le Yom Tov, pour la Simcha, etc. C'est un supplément de nourriture. C'est comme si, disons que, pour prendre, je sais pas, disons que vous avez, on vous livre tous les matins, on vous livre un petit déjeuner. Les jours de fête, il y a des korbanot spéciaux. Mais les suppléments qui viennent d'ici, c'est pas à cause de la fête. C'est pas festif. C'est le jour de la fête. Ces jours-là, ben, pour une raison à la limite qu'on connaît pas, on reçoit, on va voir, en réalité, on va recevoir une double part. Alors, Shabbat, Nekvasim Beneshana, donc deux agneaux d'un an sans défaut. Shnei Esronim, sonnette. Donc tout est doublé. On apporte le matin, au lieu que le korban du jour, normalement, c'est un kevesh le matin, un au midi. Ici, il y en a deux, c'est le matin, c'est deux. Et on avait dit un isaron. Toutes les mesures sont doublées. Ici, c'est Shnei Esronim, deux dixièmes de. Voilà. Là, c'est Shabbat, c'est doublé. Et puis, Rosh Chodesh, Korban, on va apporter deux taureaux, un bélier, et sept agneaux. Donc ici, d'une certaine façon, c'est caractérisé par le chiffre 7, quoi. Il y a 1, 1, c'est comme tous les jours, mais parce que c'est Rosh Chodesh, en plus, et 7, au lieu de 1, 7. Et puis ensuite, à Pessah, à Chodesh HaRishon, donc à la sixième montée, là, le 15 Nissan, on mangera des matzot, mais le premier jour, c'est Yom Tov, Et on apportera comme corban deux taureaux, un bélier et sept fasim. La même chose que pour Rosh Chodesh. Donc, Rosh Chodesh, Pessah, il y aura la même chose pour Shavuot. Et le Bikurim, c'est la même chose. Je saute Rosh Hashanah Kippour pour l'instant et je reprends à Sukkot, c'est-à-dire 29-12, chapitre 29, verset 12. Alors là, à Sukkot, qu'est-ce qui se passe à Sukkot? Parim, Shlosha Asar. Les taureaux, 13. On va descendre de 13 à 7. Elim. Elim, deux Elim. Le double de ce qu'on a donné à, de ce qu'il y avait pour Rosh Chodesh, Pessah, Shavuot. Sukkot, ça double. Et les Kvassim, 14, 2 fois 7, ça double aussi. Etc. Et Shlosha Esronim, 3 Esronim. Pas un, ni deux, comme un, on a doublé, puis après 3 à la place de 2. Donc on voit à Sukkot, chez chaque jour, il va y avoir une différence avec les parims, les taureaux qu'on apporte, soi-disant pour les goïms, on va en apporter 70, répartis sur tout Sukkot avec 13, 12, etc. Donc c'est un facteur amplificateur, quoi. Toujours le 7 est là aussi, et le double de... Et si on revient sur Rosh Hashanah et Kippour, alors, à Rosh Hashanah, bon, il n'y a pas de nom de Rosh Hashanah. Mais ici, comme vous voyez, c'est pas toujours présenté avec leur, c'est pas présenté comme étant Pessah. La Chodesh HaRishon be'arba asar yom, et ensuite Hamisha asar yom, la Chodesh HaZeh, alors c'est une fête de 7 jours. Et on mange. On parle pas, on dit pas Pessah. N'utilise pas le mot Pessah. Le 15. Et Sukkot non plus, c'est Chag. Et ici, ben, Chodesh HaShvi'i. Shvi'i, c'est Tishri, oui. Le premier du mois, c'est Rosh Hashanah. Alors là, on va apporter comme korbanot par un seul taureau, un seul bélier, et des kvassim, elle est toujours les 7 kvassim. Mais c'est un et un. Alors c'est ni comme Shabbat, ni comme Pessah, Shavuot, etc., et Rosh Chodesh. Même chose à Kippour, toujours un. Et il y a un autre moment où c'est aussi un. C'est dans Shmini Atzeret, tout à la fin de la paracha, Yom Hashmini, Atzeret, etc. Et là aussi, Par Echad, Ayl Echad, les 7 kvassim. Donc, ça c'est déjà une question. Ça veut dire que ce qu'on a vu, c'est que on donne à... par rapport à ce qu'on donne tous les jours, il y a un doublement pour le Shabbat, pour Pessah, Rosh Chodesh et Shavuot. Et la grande fête, les grands korbanot, c'est Sukkot. Mais, curieusement, Rosh Hashanah, Kippour Shmini Atzeret, c'est moins que tout le monde. C'est comme tous les jours. Faut expliquer pourquoi Rosh Hashanah, Kippour, et Shmini Atzeret, pourquoi est-ce que c'est moins que tous les autres? Alors, il faut comprendre probablement que il y a un inyan que le septième mois, c'est le mois de la fête. Mais la fête du septième mois, c'est Soukhot. Et de ce point de vue-là, avec toute leur importance, mais Rosh Hashanah, Kippour, sont des préparations à Soukhot, et Shmini Atzeret, c'est une clôture pour Soukhot. Ils sont quelque part, les fêtes qui ont lieu durant le mois de Tichri sont au service, si on veut, de la grande fête qui est Soukhot. C'est à Soukhot, c'est le. On comprend bien, à Soukhot, c'est la fin des récoltes, on a tout. C'est la grande joie, c'est la Simcha, elle est là, à Soukhot. Alors, c'est des moussafim, c'est des suppléments, espèce de supplément du korban standard. Il y a le korban de tous les jours, et puis à ce korban-là, il y a des suppléments qui sont donnés dans les jours qui sont des jours de fête, mais qui ne sont pas des expressions de la fête, en quelque sorte. En particulier, c'est pour ça qu'il n'y a pas leur nom. Il n'y a pas Pessah et Shavuot, ou ni pas Rosh Hashanah, ni Kippour non plus. On dit le 10 du mois. Et ce code le 15 du mois. Donc visiblement, la Torah, elle veut pas mentionner dans le cadre de ces moussafim, l'idée de la fête, le nom de la fête. Mais c'est une date, c'est la date de la fête, mais pas la fête elle-même. Donc il faudrait essayer de savoir qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que vous proposez de dire, pour essayer de caractériser ces jours qui sont des jours dans lesquels va venir une fête, mais qui ont déjà une, comme si le jour en lui-même, il a déjà une importance particulière qui n'est pas due à la fête. C'est pas que. C'est difficile à comprendre, quoi. Difficile à exprimer. Comptez un peu sur vous, en vérité. Comment on va exprimer ça, que ce jour-là, le menu standard est plus copieux, bien que ce soit pas le menu de fête. C'est pas en tant que nourriture de la fête. Pour la fête, on a une mitzvah d'apporter un korban simcha. Pour Yom Tov, il y a une obligation d'apporter un korban simcha, ou si on a suffisamment de viande par ailleurs, on n'a pas besoin d'en apporter un, mais il faut manger de la viande au titre de la simcha. Mais le korban de Moussaf, c'est pas ça. Il a une autre fonction. Alors, je sais pas. C'est quoi ce. À quel titre on pourrait dire qu'on donne un supplément de nourriture, que c'est comme si on disait supplément de nourriture pour Hachem, puisque tout ça, c'est des corbanotes qui sont pour Hachem, c'est pas pour nous. La simcha, c'est nous qui la mangeons, korban simcha. C'est les shlamim. Il faut essayer de comprendre en quoi le moussaf À quel titre vous avez envie de dire, voilà, on va apporter un supplément ce jour-là, comme si le jour avait une importance particulière, indépendamment du fait qu'on y fait une fête. Je ne sais pas vraiment le formuler. C'est ce qui est écrit là, mais...
C'est pas une première fois que le commandant simple, il a un standard, il n'a pas un nom spécifique à la
Il n'y a
fête.
pas...
Il n'y a pas de nom spécifique à la fête. Non, il y a 2000 ans.
Oui, quand on parle de lui, on ne l'apporte pas comme corban de la fête, quoi. C'est un moussaf, c'est un supplément. Un supplément de quoi? Ben, supplément, c'est un supplément par rapport au corban qu'on apporte tous les jours. Tous les jours, il y a un petit déj, et puis il y a des jours où il y a un supplément.
Mais normalement, ça c'est vraiment une rencontre qui peut faire, puisque ça rajoute.
Oui, non, il y a un supplément le jour de la fête, mais qui n'est pas la viande de, enfin, qui n'est pas une expression de la fête. C'est à la limite, s'il y avait une bracha, par exemple, pour manger les korbanot de la fête, on ferait pas la bracha sur le moussaf. On ferait la bracha sur la simcha, hein, sur le korban simcha qu'on amènerait, disons. Il n'y en a pas, hein, mais.
Comment expliquer le commandement ça pour ça Sukkot n'a pas besoin de commandement ça parce que
Pourquoi c'est?
Sukkot serait grande fête. Donc est-ce que Sukkot aurait besoin de commandement ça parce que commandement
Non,
ça
non, ce n'est pas qu'on a besoin
et en bas tout.
de. Il y a un supplément, et comme c'est la grande fête, c'est toutes les fêtes, il y a Simcha, mais Yom Simchatenu, c'est Sukkot, c'est pas. Et non, ce qui est au service de la fête, c'est le fait que les jours. Le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour et le jour de Shmini Atzeret sont. C'est comme. Dans la tfila du matin, vous avez deux brachot avant Kriyat Shema et une bracha après, bon, qui sont des brachot du Kriyat Shema. On est Yotze Shema même si on ne les fait pas, les brachot. Mais on a décidé dans la tsoura, dans la forme qu'on a donnée à la prière, et c'est comme ça que ça s'appelle, les brachot d'avant Kriyat Shema ou d'après Kriyat Shema. On peut dire que ça n'a rien à voir avec le Kriyat Shema. Bon, tout ça, c'est. Tous ces brachot, c'est mis des Rabbanan. Le Shema, hein, c'est mis de Raita. Les brachot sont de la prière. Le chemin, ce n'est pas une prière, le chemin. Le chemin, c'est une expression de prise de conscience, etc., éventuellement, déclaration de foi, ce que vous voulez, mais ce n'est pas une prière, on ne demande rien. On ne demande pas, on dit la louange d'Hachem. C'est un peu comme ça, il y a des trucs qui préparent quelque chose. Mais ça n'est pas la chose, c'est pas. Alors, c'est comme si, en fait, ça nécessiterait de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une fête, comme si la fête, elle a lieu dans un jour qui était déjà un jour particulier. Comme s'il y avait une importance du distichri, d'accord? Indépendamment du fait que ce jour-là, c'est Yom Kippour. Mais comme il aurait une importance en lui-même. Par exemple, on peut se demander, c'est marqué que toutes les. L'Atid Lavo, il y aura les fêtes, on fera plus les fêtes, il y aura seulement Pourim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces jours-là, le 10 Tishri et le 15 Nissan, sera des jours spéciaux, quand même? Même si on pratiquera plus la fête. D'accord? Mais c'est un jour quand même en soi. Alors du coup, il faudrait savoir, a priori, la fête, on l'a fait. Bon, les fêtes, elles viennent toutes pour des événements. Bon, Shoshana, c'est pas clair, mais c'est les événements du passé. Que ce soit Yetziat Mitzrayim ou Kriyat Yamsouf. Ou Matan Torah, ou alors Sukkot, c'est les Anane Kavod qui sont revenus. Et Kippour, c'est les Louchot, qu'on a reçu, le deuxième Louchot. Rosh Hashanah, il n'y a pas. Il n'y a rien à Rosh Hashanah. Il s'est rien passé à Rosh Hashanah qui justifie la fête en question. Dans la Torah, c'est même pas marqué que c'est Yom Hadin, etc. C'est un jour où tu sonnes du shofar. C'est ça, la mitzvah Hayom, c'est quoi? Tu sonnes du shofar. C'est tout.
C'est pas le jour d'anniversaire d'Alexandre de la Marche.
Pardon, c'est.
Nouvel anniversaire d'Alexandre.
Oui, mais c'est pas présenté comme ça. Donc, je crois qu'on va laisser ça comme ça. C'est ça, il faut, je sais pas le dire mieux, quoi, mais il y a une importance de ces jours-là qui n'est pas due seulement au fait que ces jours-là on fait la fête. Comme si la fête, elle venait par-dessus quelque chose qui a déjà une certaine importance. Alors, ça a une importance peut-être à cause de l'événement, et la fête, c'est autre chose, c'est-à-dire, c'est pas évident qu'un événement entraîne la fête. Mais il y a eu un événement. Par exemple, à Pourim, ça a mis du temps jusqu'à ce qu'on décide, à Pourim, à Hanouka, qu'on décide de faire la fête. Mais ces jours-là, ils avaient une importance. C'est des jours quand même où ça s'est joué, voilà, et on a été libérés, Aman est mort, etc. Ok, alors après, on a décidé de faire une fête. Et c'était d'ailleurs, il y a des Chazals qui disent que à Pourim, les gens qui étaient dans les villes fortifiées, villes fermées, ils voulaient pas faire Pourim. Bien que maintenant, nous, on n'était pas vraiment en danger. C'est nos copains, on les connaît, etc. Et il était question que, bon, ben, ils feront pas Pourim, eux. Après, on a décidé, Chazal, on dit, on peut pas faire que la moitié du clan d'Israël fait pourri, mais l'autre moitié fait pas. Alors, on a marqué le coup quand même, qu'ils font le 15 et pas le 14. Mais le 15, c'est une certaine punition. Vous ferez pas pourri avec tout le monde. On n'a pas supprimé complètement pourri pour eux, mais ils font pas le vrai pourri. Le pourri, c'est le 14. C'est une interprétation. Pourquoi cette différence entre les Harei HaPrazot, les villes fortifiées, enfin des villes avec murailles ou sans murailles. Razal, dans le Midrash, ils ont dit, OK, c'est parce que ils voulaient pas vraiment. Toujours les gens, après coup, ils disent, oh, non, on n'était pas, c'est nos amis, etc. Bon, c'est comme les gens qui voudraient dire que peut-être, bon, les Palestiniens, d'accord. Non, mais c'est des mauvais Palestiniens, mais les bons Palestiniens. Voilà, ça va être là.
Oui. Oh.